Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chise 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chise a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chise 94.3.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est le but!
Les Remparts de Québec reçoivent le Drakkar de Baie-Comeau ce mardi 7 mars à 19h. Rejoignez Ray Cloutier dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Drakkar, mardi 19h sur les ondes de Chise 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chise 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le Crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Vous écoutez L'Art des histoires.
Salut!
Bon matin.
En forme? Bon matin. Oui, je suis en forme. Écoute, je suis tellement en forme qu'il y a des jingles qui sortent de ma peau.
Salut tout le monde!
Salut les autres.
Salut les autres, ouais. C'est ça, ben, j'ai mentionné ces deux personnes-là parce que c'est probablement nos auditeurs les plus fidèles, connus. Parce que, tu sais, il y a sûrement des auditeurs fidèles, mais ils sont pas manifestés encore.
Fait que tu sous-entends que le jour qu'on connaîtra tous nos auditeurs, si c'est des milliards, il faudra les mentionner au complet à chaque début d'émission, c'est ça?
Oui. Mais je vais tous les mentionner en même temps.
Parfait.
Fait que ça va juste faire un gros clash auditif.
Bon, OK. Ça nous prendra au moins 3 émissions ou un peu plus quand même. Ouais, c'est bon. Et là, t'as mis ta tuque hivernale.
Ouais, mais je sais pas si c'est de bon goût, c'est approprié, mais c'est en thème avec le sujet. C'est parce que aujourd'hui, on se fait prendre en photo.
T'es distrait,
parce que,
hein? Ça te déstabilise.
Ça me distrait, mais parce que regarde.
T'aimes pas tuer les projecteurs, c'est ça?
Ah, oh, j'aime ça, Cédric.
Ouais, non.
J'aime ça, mais là, tu vois, je sais même plus son où, mais en tout cas, parce que le sujet du jour, c'est photographie, vidéographie.
Oui, on est dans la production visuelle beaucoup. Vidéo, photo, on est dans l'image. Puis on reçoit Samuel Si.
Ah, là, t'as skippé mon jingle.
Bah, ouais, j'ai skippé ton jingle parce que t'en as trop de jingle.
Faire toutes les étapes, Cédric.
Je te laisse présenter l'invité.
L'invité, Samuel Cyr.
Sais-tu Samuel Cyr comme en anglais, le Sir?
C-Y-R. Ouais, okay. Ouais, sinon, il y a Cyr et Cyr, le monsieur, mais non, c'est vraiment C-Y-R. Ça vient du mot Cyril,
sérieux?
Qui est grec, d'origine grecque.
OK, OK, OK. Ça veut dire?
Bon matin.
C'est un nom, c'est un prénom.
OK,
puis,
Cyril.
Ouais. Les origines et les noms de famille sont assez
douches. J'ai un cousin qui s'appelle Cyril.
Salut Cyril.
Ouais, si tu nous entends. Bon matin Samuel.
Bon matin les gars, merci de me recevoir.
Pas de rien, bienvenue à notre émission.
Merci.
Parfait, parfait. Donc, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je sais ce que tu fais. Bon, c'est ce que tu fais parce que quand je suis rentré, tu as commencé à nous photographier des yeux. Puis on peut voir dans les yeux de quelqu'un, pas nécessairement ce qu'il fait, mais la précision de ce qu'il fait. Mmh. On peut le voir dans ton regard que tu es quelqu'un qui capte les choses. Mais avec ton objectif, fait que j'en dis pas plus. Je te laisse.
Bien sûr, effectivement, le regard, c'est un peu le reflet de l'âme. Là, on voit beaucoup les émotions qui transpercent le regard des gens. C'est ouais. d'ailleurs une chose que j'aime beaucoup faire dans mon métier. Mmh. Donc, je suis photographe et vidéaste. J'ai commencé un peu par hasard. Des fois, j'aime dire que l'art m'a apporté là, puis que j'ai pas nécessairement pris la décision consciemment d'aller là. Mmh. Du moins, c'est plein de petites micro-décisions qui m'ont porté à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est qu'à la base, j'étais dans le domaine de la vente et du marketing. Puis finalement, j'aimais plus tout à fait mon métier. Ben, pour faire l'histoire un petit peu plus large, là, en fait, j'ai été malade. J'ai eu des problèmes de cœur, une périmyocardite à l'âge de 20 ans. Okay. Puis ben ça a comme un peu shaké la boîte là, de « Hey Sam, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie vraiment? » Parce que j'ai passé proche de c'est pas assez pratiquement, ou du moins, je me suis vraiment remis en question. Mm. Puis j'ai réalisé que je faisais plus tout à fait ce que je voulais faire dans la vie. Puis ben finalement, je me suis mis en période de découverte. Puis c'est là que j'ai découvert la photographie puis la vidéographie. C'est que j'ai commencé en production de photos, j'ai commencé à le faire pour le plaisir, donc je me suis mis à voyager, je me suis mis à immortaliser un petit peu ce que je préférais dans la vie. Puis c'était beaucoup des paysages de nature puis des choses comme ça. Puis ben finalement, de fil en aiguille, ben on m'a appelé puis on a réussi à m'engager sur quelques contrats, donc je me suis parti en affaires en photographie. Puis il y a une boîte de production qui m'a recruté en cours de route, qui finalement m'a formé en production de vidéo. Puis maintenant, je suis à mon compte depuis 5 ans dans un domaine qui me passionne beaucoup.
OK. Hey, c'est venu à toi, dans le fond. Là. C'est pas toi qui a dit « Ah, oh, moi, je veux être photographe » puis t'as comme mis tes CV partout. Là. C'est comme... tombé comme ça.
Ouais, ben c'est vraiment tombé comme ça parce qu'en fait après la maladie du cœur, je me suis retrouvé avec plus beaucoup de passion parce que mes passions étaient beaucoup reliées à travers le sport. Puis ben le moral a comme un peu suivi parce que quand on n'a pas de passion dans la vie, ça va pas tout le temps bien. Puis j'ai un ami qui a fait une très grande différence dans ma vie. Je ne sais pas s'il réalise à quel point il a fait une grande différence, mais à un moment où est-ce que j'allais pas tout à fait bien mentalement, il m'a apporté faire de la photo. Lui avait pris l'appareil photo de sa copine. Qui avait un vieil appareil, puis finalement, on allait photographier au centre-ville toutes les deux. Puis, tu sais, au début, j'avais vraiment comme du recul. En fait, je voulais pas nécessairement y aller. J'étais pas tout à fait ouvert d'esprit à prendre la photo. J'avais peut-être des préjugés, ou du moins, je sais pas pourquoi, je voulais pas prendre de photo. Puis finalement, ça s'est retrouvé être une passion vraiment assez intense puis rapide. C'est quelque chose que... Je pensais seulement à ça, tu sais, c'est que le soir, je regardais des vidéos de photographie, puis dans mes temps libres, je cherchais toujours des endroits où aller photographier, des sujets. J'essayais aussi un peu de trouver qu'est-ce que j'aime à travers ça, parce que moi, la photographie, ben c'est une opportunité de voir la vie différemment. Donc, en fait, ça m'apporte à observer les choses différemment, mais aussi à découvrir des nouvelles passions. C'est que, par exemple, lorsque des fois j'ai des contrats que je connais pas du tout, j'ai photographié des entreprises qui me disent absolument rien. Puis finalement, ben, en y allant, je me rends compte que c'est super fascinant comme domaine. C'est que ça m'a comme donné un peu une paire de lunettes différentes sur le monde.
Mais quand pour nous, les néophytes, là, on s'y connaît pas, on se dit, tu prends une photo, t'as un appareil, tu prends une photo, c'est bon, t'as la photo. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que. Tu sais, la photo. L'appareil fait tout, mais qu'est-ce que toi tu peux apporter de plus comme touche? Puis là, je sais qu'il y a la section retouche puis post-prod que tu gères, mais comment tu, pas forcément modifies, mais comment tu apportes ton regard, ta touche dans une photo? Mais qui a déjà été prise par un appareil photo.
Mm-hmm. Ouais. En fait, je pense que la majorité, c'est qu'est-ce qu'on décide de photographier premièrement. Okay. Puis ça vient vraiment refléter qui est la personne en tant que telle. Okay. Comme je peux regarder la playlist de quelqu'un, la musique qu'il écoute, puis savoir à peu près qui est, mais c'est pareil en voyant qu'est-ce qu'il photographie. C'est à peu près le reflet de qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il veut dénoncer politiquement ou de n'importe quelle autre façon. Comment je peux me démarquer sinon? Je te dirais qu'il y a la composition, beaucoup. La composition, tu peux prendre la même photo, ou par exemple, prenons le rocher percé. J'ai vu une photo ce matin du rocher percé qui a été tellement immortalisé, souvent, mais d'un point de vue différent. Quelqu'un qui l'avait pris à travers deux morceaux de glace, puis qui avait comme des stalactites de glace qui tombaient en même temps, puis c'est qu'il y a aussi le temps de la journée qu'on peut le prendre. Mais la composition, c'est des fois où est-ce qu'on va placer les objets dans la photo en tant que tel. Okay. C'est que souvent, on va essayer d'avoir un avant-plan, un sujet principal, puis un arrière-plan. Après ça, la post-production, mais ça, c'est un gros volet, là. On peut prendre, on s'amusait avec des amis à faire l'exercice de prendre la même photo qu'un photographe a pris qui est parfois même pas nous autres, puis de la retoucher différemment. Puis ben là, c'est là où est-ce qu'on va comme apporter, qu'on va atténuer des couleurs ou qu'on va accentuer des couleurs, qu'on va aussi utiliser peut-être plus de détails dans la photographie, ce qu'on peut appeler la sharpness ou bien la clarity. C'est que la clarté ou le côté plus aiguisé des photos, il y a des gens qui vont vraiment faire ressortir les textures puis les contrastes, puis d'autres qui vont essayer de laisser ça un petit peu plus flat. On voit aussi, il y en a qui vont faire des couleurs un petit peu plus oranges, vers des couleurs plus chaudes, qui apportent justement de la chaleur, puis sinon dans des couleurs un petit peu plus froides, un petit peu plus dramatiques. Mais franchement, là, je pense que la grande différence, c'est qu'est-ce qu'on va décider de photographier, à quel temps de l'année, si on est plus vers des animaux, des portraits, des paysages, ou bien tu sais, du corporatif.
Puis j'imagine que... Prenons un peu les animaux ou les êtres humains. Est-ce que tu... Parce que la semaine passée... la semaine d'avant, on a reçu un caricaturiste.
OK.
Et lui, son... de ce qu'il nous avait dit, c'est que quand il voit quelqu'un, les traits les plus marquants ressortent. Est-ce que toi, quand tu prends la photo, quand tu fais de la post-prod, souvent tu filmes un lion ou un lézard ou un truc ou un humain, est-ce que tu mets l'emphase sur ce qui te touche ou ce qui, selon toi, définit la personne dans sa morphologie?
Je te dirais qu'avec la photographie, tu sais, on prend les choses telles qu'elles le sont. Il y a quand même un côté authentique qu'on doit conserver, le naturel. Qu'est-ce que la nature nous offre en tant que telle avec les traits de la personne ou de l'animal? Ce qu'on va essayer d'accentuer parfois, c'est les émotions que ça va venir dégager. Okay. C'est que par exemple, si j'ai un lion ou un félin ou un animal qui semble comme un petit peu plus sur un ton dramatique, mais tu sais, je peux pousser l'editing en fonction de ça. Okay. C'est que je vais pas nécessairement pousser de quoi de chaleureux, de très orangé. Okay. Je vais peut-être prendre des couleurs un petit peu plus, là, tu sais... plus froide, donc un petit peu plus bleu, mais en même temps pousser aussi là, les contrastes, puis pousser aussi la texture de l'image pour faire ressortir les traits de l'animal. Ouais. Généralement, avec les pelages, là, c'est ce qu'on va essayer de faire, généralement, les barbes aussi. Mm-hmm. C'est que, tu sais, si on photographie un homme, généralement, disons, imaginez la classique photo en noir et blanc d'un gars avec une grosse barbe. Ouais. On va pousser vraiment la texture de la barbe pour faire ressortir les traits du visage, mais aussi les traits des poils.
Okay.
C'est que, tandis qu'une femme, on va essayer d'aller vers le côté un petit peu plus doux. Des fois, on va même polir le visage pour essayer d'enlever les pores de peau, par exemple. C'est que ça donne un look un petit peu plus uniforme. Ce que les femmes vont répliquer des fois naturellement avec leur maquillage.
Exactement.
Okay. Ouais.
Parfait.
Intéressant. Fait que tu fais sauver de l'argent dans le maquillage aux femmes. C'est bon, ça, c'est écologique.
Du moins pour la photo de profil, oui. Après ça, tu sais, faut savoir s'accepter comme on est. Moi, c'est un côté que j'aime beaucoup favoriser, là, dans la photographie. C'est, même dans la production de vidéos, c'est pousser le naturel. J'aime pas nécessairement le stagé, du moins les textes déjà préconçus avec un télésouffleur ou des choses comme ça. Personnellement, je trouve que je sens beaucoup le malaise un peu de la perte du naturel, puis que ça fait vraiment comme un petit peu plus du théâtre, là, ce qui est une bonne chose aussi, mais que personnellement, je préfère moins mettre de l'avant dans mon art. C'est que j'aime bien que les gens arrivent comme ils sont, arrivent comme qu'ils s'habillent comme une journée normale, que je les prenne, que des fois, ils savent pas nécessairement qu'ils vont se faire prendre en photo, mais je préfère ça comme ça. On dirait que c'est vraiment plus leur personne, puis ce qui est authentique transparaît, comme ce qui est pas authentique.
Comme Cédric aujourd'hui qui savait pas qu'il allait être pris en photo.
Ouais, mais
c'est parfait.
Honnêtement, ça me dérange pas. Et je suis habillé aujourd'hui comme. Écoute, je suis pas. J'aime le style.
T'es yo aujourd'hui, moi, je trouve.
Mais en même temps, j'ai mis ça parce que j'avais plus rien d'autre à mettre. Tu vois un peu. C'est souvent ça. J'ai pas fait mon lavage ce week-end. Puis j'ai pris le dernier truc qui marchait. Puis je l'ai mis. Si ça donne du style, écoute, ça donne du style. Hein.
Ça vient comme représenter aussi un petit peu, là, c'est une histoire de lavage, mais des fois, dans l'état d'esprit qu'on est, tu sais, dans comment qu'on s'habille, ça reflète à peu près comment qu'on se sent cette journée-là. Mm-hmm. Personnellement, tu sais, je vais m'habiller de façon vraiment plus extravagante, des journées où est-ce que je file vraiment bien puis que j'ai la capacité de m'extérioriser, tandis que des journées où est-ce que je vais pas me faire remarquer du tout, que je vais m'habiller comme plus en noir, plus en blanc.
Oui, j'ai compatible avec ça. Puis là, tu parlais aussi beaucoup de... des fois, tu dis que tu veux pas que ça soit trop stagé, mais justement, quelle est la place de la spontanéité puis l'improvisation? Est-ce que il y a beaucoup de choses que tu planifies pas avant d'arriver à un tournage ou?
Ouais.
Ouais.
Absolument. Puis je te dirais peut-être moi plus qu'un autre. Je suis pas nécessairement un grand amateur de se prévoir d'avance tant que ça, d'en faire les scénarios. Je fais une pré-production, mais qui est assez des fois plus rough que d'autres le feraient. Parce qu'au final, je me rends compte que je passe énormément d'énergie à essayer de prévoir le futur, puis ben finalement les choses se présentent pas telles qu'elles le sont, puis se présentent d'une façon naturelle. Puis quand après ça, je dois faire la police du stage pour couper le naturel, ben c'est pas nécessairement quelque chose que j'aime. C'est que par exemple, là, dans les productions, généralement, ce que j'aime faire là, le plus, là, au niveau des entrevues, là, au lieu de faire parler les gens qui ont un télésouffleur, c'est que je mets la caméra, puis je commence à parler avec la personne avant même que je commence à filmer. Ouais, c'est que je pose des questions, tu sais, puis ils s'en rendent même pas compte, en fait, que l'entrevue est débutée. Mm-hmm. Puis là, les gens sont eux autres même, puis ils vont des fois même, tu sais, être super authentique, sacré, ou peu importe, tu sais, être vraiment émotif. Puis ben, généralement, l'entrevue se déroule comme ça. À un moment donné, la personne se rend compte qu'elle est filmée, mais comme il n'y a pas eu le moment déclencheur qu'elle a commencé à être filmée, mais elle n'a pas le stress de performance mm-hmm. derrière ça. Mm-hmm. Parce que les gens, on s'en rend bien compte, là, puis vous en rendez sûrement compte, vous autres aussi, là, quand on débute une entrevue, la personne n'est pas pareille qu'avant.
C'est ça, ouais.
Puis moi, c'est ce que je trouve beau, en fait, chez l'être humain, c'est aussi son authenticité, mais les défauts un peu derrière ça. On peut appeler ça des défauts, mais personnellement, moi, je trouve que c'est ce qui fait beaucoup le charisme des gens. C'est des fois leurs petites erreurs ou leurs petites manières, puis la façon qu'ils s'expriment. Mm-hmm. C'est que généralement, quand les gens savent pas qu'ils sont filmés, j'aime ça quand ils s'emballent, puis qu'ils me parlent d'un sujet qui les passionne, puis que là, il y a des étoiles dans leurs yeux, puis que je vois la passion sortir derrière ça. Puis j'aime beaucoup filmer les gens, tu sais, qui fait ce qu'il aime, puis après ça, de leur poser des questions sur qu'est-ce qu'il aime, puis là, je vois l'engouement, leur ton change, puis ils s'emportent, puis ça, je trouve que ça a pas de prix.
Ben, ça revient à ce qu'on disait la semaine passée. On disait que ben, les artistes, ils sont en ça. Ils sont tellement toujours dans leurs affaires, ou bon, pas nécessairement les artistes, mais comme tu disais, les passionnés, en fait. Ils sont toujours dans leurs affaires, qu'ils ont très peu de chance et d'occasion de parler de ce qu'ils font. Mmh. Et le jour où tu leur demandes, mais tu fais quoi dans la vie? Oh, je fais ci, je fais ça. Mais parle-moi de ça. Hein? Parce que eux, pour eux, ils le font. Ils en parlent pas, tu vois, un peu. Fait que c'est d'où l'angoisse. Ok, je vais te parler de mon truc. Puis c'est le fun parce que ça donne l'occasion à la personne qui le fait aussi de mettre des mots. C'est ce qu'il fait. Parce qu'on n'a pas l'occasion de mettre les mots, on le fait. Si, ça fait corps avec ce qu'on est, tu vois, un peu. Fait que non, c'est cool de faire ça. Puis c'est aussi un outil pédagogique pour vraiment, pour des jeunes ou des gens qui débutent, qui voudraient débuter dans le domaine. Ok, ah, il a fait ça, il est passé par ça. Ok, ça prend ça. Ah, je pourrais faire ça. Puis finalement, trouver sa façon d'évoluer dans ce nouveau domaine-là. Et c'est vraiment important. Je pense que ça rejoint aussi ta façon de capter les éléments avec les sons que tu captes naturellement. Pourquoi je dis que ça rejoint, c'est que quand t'enlèves le décor, quand t'enlèves les, comme actuellement dans la radio, si t'enlèves tout ça, le micro, les ta-ta-ta-ta-ta, on va avoir une discussion de potes dans un sur un divan avec du thé, puis chez nous, tranquille, tu vois. Et les trucs vont ressortir. Alors que là, tout de suite, même si nous, on est habitués, on rentre dans le décorum. Puis, rentrer dans le décorum, c'est se couper de quelque chose. Fait qu'on se coupe un peu parce qu'il faut respecter le coup.
Il y a des normes à respecter.
Il y a des normes à respecter, mais on perd un peu l'essence du lâcher prise puis du laisser aller un peu.
Mais je crois aussi qu'il y a un aspect positif parce que ce que ça nous fait, c'est que on doit se concentrer à l'essence de ce qu'on veut partager. Tu sais, on veut pas juste râler n'importe quoi. Fait que ça nous force aussi à vouloir dire quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Fait que moi, quand je suis à la radio, je suis peut-être pas dans ma normale de tous les jours, mais je canalise quelque chose qui est en accord avec moi, qui me permet de partager un message que j'aime. Puis qui fait du bien au monde, je pense. Mm-hmm. Fait que je me dis que c'est quand même positif aussi l'aspect que t'enlèves des affaires aussi qui peuvent être des fois pas forcément
pertinent.
Ouais, peut-être, ouais.
Mm-hmm. Je pense aussi qu'est-ce qui a beaucoup de valeur là envers les gens, c'est de sentir un sentiment de réciprocité avec qu'est-ce qu'ils écoutent. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les podcasts fonctionnent très bien. D'ailleurs, c'est que quand c'est pas nécessairement stagé, puis que c'est vraiment sur le fait, là, puis que les gens sont vraiment eux autres mêmes. En fait, ils se trouvent ils viennent peut-être un petit peu plus s'identifier avec le contenu. Mm-hmm. Puis ben là, ça dépend qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme idée en particulier. Tu sais, généralement, quand on fait de l'art ou quand on passe un message, ben on a un message en particulier à livrer derrière ça. Tu sais. Ouais. Puis ben là, c'est propre à chacun. Tu sais.
Justement, est-ce que la photographie te donne un espace assez large pour exprimer tes messages? Est-ce que tu as des messages que tu veux véhiculer quand tu photographies, quand tu fais de la vidéo, quand tu...
Absolument. En fait, je pense que c'est vraiment plus facile de véhiculer les messages en vidéo. La photographie, pour moi, ça a vraiment été un premier amour comme une passion qui me, comme, fait apprécier le processus, puis qui m'a appris aussi à créer des images, puis à faire le tout derrière qui me permet de créer de la vidéo maintenant. Mm-hmm. Mais pour la vidéographie, moi, je pense que le réel cadeau qu'on peut faire aux gens, c'est des connaissances. Yeah. Y a un vieux dicton que j'aime bien, là, c'est « on donne un poisson à une personne, puis il va pouvoir se nourrir pendant une journée. Mm-hmm. Apprends-lui à pêcher, il va pouvoir se nourrir toute sa vie. » C'est que moi, je pense que qu'est-ce que je veux faire avec mon art, puis qu'est-ce que je fais déjà, là, mais que, tu sais, c'est toujours un chemin d'évolution, là, c'est de combler peut-être les trous dans l'éducation, les trous qu'il n'y a pas eu. Puis, ben, même si on a des cours de philosophie, tu sais, parfois à l'école, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aurais aimé pousser un petit peu plus loin. Mm-hmm. Je trouvais que c'était très théorique, puis je voyais pas tout à fait comment que ça pouvait s'appliquer dans ma vie au quotidien. Ça se trouvait qu'en sortant du collégial, ben, j'avais énormément de questions, tu sais. Pourquoi je suis sur Terre, tu sais? C'est quoi mon objectif dans la vie? Est-ce que j'ai à avoir un objectif? T'sais. Puis je fais quoi de tout ce temps-là, toute cette richesse-là? Puis des fois, j'ai l'impression, comme on n'a pas nécessairement de meaning ou de signification des fois dans la vie, mais on se retrouve un peu perdu. Puis ben moi, finalement, ma propre définition, ben je me l'ai attribuée moi-même, puis c'est d'être heureux, puis c'est de profiter de ce temps-là sur Terre, en fait. C'est de passer un bon moment. Puis le deuxième, c'est de partager. C'est de partager ce moment-là. C'est qu'en fait, je retrouve les outils qui, moi, m'ont rendu heureux dans la vie, puis j'essaie de les partager. Puis là-dedans, on retrouve la philosophie, mais on retrouve aussi le sport, puis on retrouve aussi l'art, naturellement. C'est qu'en ce moment, je suis en train de faire la réalisation, la production d'une série télé, ouais, de 4 épisodes qui s'appelle « S'allier à l'hiver ». Puis qu'est-ce que je viens faire dans « S'allier à l'hiver », c'est principalement montrer des sports hivernaux, montrer comment les faire, donner de l'information, c'est ce que je considère que le réel cadeau, l'information. Mais après ça aussi, il y a un peu un petit deuxième degré de sortir de sa zone de confort. Je considère que on peut vivre sa vie d'une façon linéaire, ou bien on peut vivre sa vie avec des hauts puis des bas. Puis ça, c'est les c'est les sentiments, en fait. C'est les sentiments qu'on va vivre, les hauts puis les bas. Puis ben, pour avoir des bas, faut sortir de sa zone de confort. Mais quand on sort de sa zone de confort puis qu'on va dans le difficile, mais après ça, on a un haut après. C'est que j'ai une petite parallèle dans cette série télé-là qui est justement là, de valoriser la sortie de la zone de confort puis montrer comment qu'on peut le faire avec le bon outil, mais avec les bonnes personnes, puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai donné quelques conférences dans les écoles secondaires, dans les cégeps à Trois-Rivières, puis j'ai remarqué des fois qu'il y a des jeunes qui semblent un peu éteint, ou du moins qui manque peut-être un peu d'entrain, puis c'est correct, puis c'est normal, puis j'y étais, ce jeune-là, puis on a toutes des passes comme ça, mais c'est l'héritage que je souhaite laisser sur Terre, en fait, ça serait là, de donner un petit peu de la motivation à ces jeunes-là qui comme j'ai été, qui trouvent leur meaning, puis qui trouvent ce qui donne envie de leur... ce qui leur donne envie de se lever le matin, tu sais, puis de pousser. Moi, la photographie, ça a vraiment été un amour, tu sais, puis ça faisait en sorte que je me levais à 4 heures le matin avant le lever du soleil pour aller prendre des photos, puis c'était facile pour moi. Je trouve que quand on a de la motivation, puis qu'on aime vraiment ce qu'on fait, ça nous donne une énergie qui sort de nulle part. Puis ben ça, c'est l'énergie de la passion. Puis c'est ce que j'aimerais laisser, en fait, comme message dans mon art en général.
Oui. Bravo.
Merci, merci. Ouais, bien. Puis, tu sais, je pense qu'en photographie, je vais plus venir véhiculer ce que je trouve beau. C'est que des observations, comme la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de bonheur qui se trouve dans l'émerveillement, tu sais, des petites choses comme des grandes choses. Puis ben des fois, quand je me nomme artiste ou qu'on m'appelle artiste, j'ai un petit syndrome d'imposteur parce qu'en fait, moi, j'ai plus l'impression d'être un aventurier ou quelqu'un qui découvre ce qui existe déjà. J'ai pas toujours l'impression de créer, j'ai plus l'impression de mettre de l'avant ce que la nature m'a déjà donné, comme les paysages, mais comme les gens, puis comme les idées que les gens peuvent avoir, ces discussions-là. C'est qu'en photographie, c'est plus ça que je vais montrer. C'est des observations, des choses qui vont te faire sentir bien. Puis en vidéo, ça va plus être des messages que je vais laisser. Mais tout ça en utilisant le plaisir. Parce que pour moi, pour bien apprendre, ça prend du plaisir, ça me prend de motivation. Puis quand cette motivation-là n'est pas là, ben, je perds l'intérêt. C'est que selon moi, l'éducation devrait être le fun. Ça devrait être de quoi qu'on a hâte d'aller. Puis en faisant une série télé qui peut... J'essaie de les faire cool, là, mes séries télé, puis le monde a envie de les écouter. Tu sais. Mm. Mais à travers ça, je glisse des petites informations, puis ben là, il y a de l'apprentissage.
Est-ce que tu en as déjà fait des séries qu'on peut avoir... qu'on peut aller réécouter ou qu'on peut ou c'est ta première que tu es en train de faire?
C'est ma première série télé, ouais. Ça. Ouais, okay, je suis super content de cette opportunité là. Je me nichais un petit peu plus dans le corporatif, dans les vidéos que je faisais. J'en ai fait aussi là avec le public. J'ai mis en valeur des territoires. J'ai fait des vidéos un petit peu plus sociales que vous pouvez trouver sur mon site web, sur ma page Facebook, samuelcir.com ou Samuel Cyr Production sur Facebook. Mais pas, c'est ma première série télé. Puis en fils. C'est vraiment une belle opportunité, puis je suis vraiment reconnaissant là, d'avoir cette chance là. Puis je dis toujours en fait qu'il faut suivre le plaisir dans la vie là. Puis en fait, comment j'ai eu cette série télé là, c'est une journée où est-ce que je voulais faire du démarchage, que je cherchais à combler un petit peu plus mon hiver, puis j'avais un petit peu moins de contrats pour l'hiver. Puis ben finalement il y avait une soirée de danse à Montréal. En fait, c'était un festival de musique électronique, Mutec pour le nommer. Puis j'ai fait hey, fuck it, je vais aller danser. Genre, j'étais supposé travailler, mais j'ai fait, je vais suivre le plaisir. C'est important, tu sais. Parce que quand on s'embourbe un petit peu trop dans le processus, des fois, du travail, on oublie d'avoir du fun dans le moment présent. Puis, ben, pour moi, c'est important de garder l'équilibre. C'est que je suis allé danser à Montréal, puis j'ai rencontré des amis que j'avais déjà vus à d'autres festivals. J'avais particulièrement envie de danser cette soirée-là. j'avais une belle énergie. Puis j'ai rencontré à la sortie de ce festival-là Daniel qui travaille pour Bell Media, Bell Fib, qui m'a approché puis qui m'a dit « Hey man, tu sais, je te regardais aller, puis t'es qui, tu sais, tu fais quoi dans la vie? » Puis là, j'ai dit que je faisais de la production à Trois-Rivières, puis finalement, il m'a dit « Hey, c'est drôle la vie, il dit, cherche justement un producteur à Trois-Rivières pour faire une série télé. » C'est que c'est avec Bell Fib, Bell Media, qui est la télé communautaire. Mm-hmm. Eux, ce qu'ils font, ils vont gérer le budget gouvernemental pour pouvoir faire ces séries-là. Donc, j'ai eu pleine liberté sur le projet. La seule restriction que j'avais, c'est que ça devait être en Mauricie. Puis que ça devait avoir un volet communautaire. Puis sinon, ma restriction, ben, c'est un peu mon auditoire, tu sais, qui est assez large. Mm-hmm. C'est que j'ai proposé 5 idées à TV1. Finalement, ils en ont retenu 2. Ils m'ont laissé choisir entre les 2 idées. La première était celle que finalement qui a été de l'avant sur les sports hivernaux. La deuxième était sur les alternatives. C'est qu'en fait, je voulais parler des écoles alternatives, des transports alternatifs, des habitations, des médecines alternatives. Mm-hmm. Ça, j'espère peut-être pouvoir faire cette idée-là dans le futur. Je trouve qu'on a des belles opportunités.
Ben, c'est aussi un domaine, c'est un domaine très large qui, je pense, qui mériterait d'être à la fois d'être connu. Mais d'être mis en vidéo. Tu sais, parfois, on entend beaucoup parler. Tu sais, il y a des écrits, mais il y a avoir des témoignages, des rencontres, des preuves tu sais, visuelles que tu vois un peu. Parce que parfois, c'est des trucs qui sont un peu marginalisés un peu. Mais pourtant, si tu rencontres 10 personnes, au moins 8 savent c'est quoi, tu vois un peu. Ouais. Fait que ce serait bien d'en parler un peu.
Ouais, puis de démystifier, tu sais, de voir le pourquoi on décide de faire affaire avec une école alternative, tu sais, qu'est-ce qui nous a poussé à prendre ce chemin-là qui est un petit peu plus difficile, tu sais, il y a pas toujours, je vous dirais comme l'école à la maison, tu sais, les ressources sont pas toujours là pour les parents qui finalement des fois se tournent vers l'école publique justement pour ça, des gens qui aimeraient faire l'école à la maison, mais c'est ça pour toutes les alternatives en général. Je pense que je pousse beaucoup l'innovation, j'aime la création d'idées, c'est quelque chose que je me dis qu'on pourrait sauver le monde avec une bonne idée qui pourrait régler le problème du réchauffement climatique ou n'importe quoi. Tu sais, on est à une idée de pouvoir régler tout ça. Tu sais. Puis je pense que le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie, c'est chez la jeunesse, puis chez la créativité. Puis c'est quelque chose que je trouve qui mériterait d'être poussé un petit peu plus dans la vie en général, de valoriser les idées.
C'est magique.
J'aime tellement tes sound effects puis tes jingles. Merci.
Parce que sais-tu pourquoi ils sont aussi nice?
Vas-y, parce que...
Parce que c'est... Moi-même.
Faites avec amour.
Ouais, c'est... Faites tout moi-même. Bon, oui, c'est ça. Fait que, ouais, faites avec amour. Fait que là, ben, tu vois, c'est déjà...
De la pause.
Ouais. Fait que c'est...
Ouais. La pause. Ben, on revient avec plus d'informations après la pause.
D'informations?
Ben oui, je prends les termes de Samuel. C'est ce qui est le plus important, l'information.
L'information, parfait. On revient avec ça. Peace.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur.
Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true, it's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Voilà, nous sommes de retour à l'heure des histoires. Écoute, hey, aujourd'hui, deux chansons. On va commencer avec Jim Cross, Photographs and Memories, parce que, ouais, écoute, nous, à l'émission, on est...
Thématique.
On est full thématique, fait qu'il y avait ça comme premier choix. Alors, ensuite, j'ai mis Eddie Vedder, Photographs du film Into the Wild. Puis là, tu me disais, Sam, que ça résonnait avec toi, ce film-là.
Beaucoup, ce film-là. T'sais, tout à l'heure, je vous ai parlé que mon objectif principal, c'était d'être heureux. Puis la deuxième, c'était de le partager. Puis une des leçons finales de ce film-là, c'est que le bonheur est fait pour être partagé. Mm. Puis j'ai souvent senti que j'étais un peu comme ce gars-là. C'est Alex McCandless. En fait, je voulais un peu m'évader de la société. J'étais pas nécessairement en accord avec tout ce qui se passait. J'avais du ressentiment, puis finalement, je me suis acheté mon propre autobus, moi, avec, puis je suis parti.
Ah ouais.
Finalement, je l'ai pas... j'ai pas atterri en Alaska, puis je suis pas mort d'un empoisonnement alimentaire, mais je trouvais que c'est un volet intéressant quand même. Ça a été un moment décisif de ma vie, un peu de partir en aventure, puis de découvrir ce que j'aimais.
C'est intéressant. Écoute, il n'y a pas d'hasard dans la vie, hein, tu vois. Moi, je prends tout le temps beaucoup de temps le matin pour choisir mes chansons. Par le matin, c'était long, là. C'était difficile. J'avais de la misère parce qu'il y avait tellement de directions que je pouvais prendre qu'il fallait que je fasse des choses. Pour ça, aujourd'hui, j'ai choisi 3 tunes au lieu de 2. Fait que ça y va, mais il y a tout le temps des belles coïncidences.
Samuel, c'est une question que je te pose comme ça, au hasard.
Mm-hmm.
Ça revient souvent, cet élément de... ça a pris un, je sais pas, ça a pris une une maladie, ça a pris, tu sais, ça a pris quelque chose d'assez fort chez les gens pour qu'ils changent de cap. Puis de ta petite expérience, de ton expérience, qui suis-je pour dire qu'elle est petite, de ton expérience, est-ce que ça prend nécessairement ça pour...
Non, puis en fait, c'est un peu ça que je veux faire à travers mon message. C'est de dire aux gens, attendez-vous pas de faire face à la mort pour profiter de la vie, tu sais. Parce que justement, rien n'arrive pour rien. Puis si on n'avait pas cette mort-là, peut-être qu'on ferait rien, tu sais. Peut-être qu'on porterait pas autant action. C'est bon d'avoir un ultimatum dans la vie. Puis tu sais, je pense que ça fait du bien des fois d'avoir la frousse. Ça fait du bien parfois de perdre qu'est-ce qu'on aime pour pouvoir réaliser qu'est-ce qu'on aimait, pour pouvoir mieux le retrouver. C'est bon de s'arrêter parfois de notre vie qui est super rapide, puis d'apprécier ce qu'on a autour de nous, puis de donner de l'attention puis de l'amour à ce qu'on aime au final, d'arrêter de prendre les choses pour acquis. Mais pour répondre à ta question, je pense que non, ça prend pas nécessairement cet élément déclencheur-là, mais ça prend une grande sagesse pour être capable d'apprécier ces choses-là sans avoir l'élément déclencheur parfois, ou une très bonne écoute.
Ouais, sagesse, très bonne écoute. C'est des éléments, c'est rare, hein? C'est hors de prix, ces affaires-là. Surtout dans, comme tu disais, dans un contexte actuel qui est très rapide. Très rapide. S'arrêter, c'est compliqué. En fait, tu voudrais t'arrêter toi-même, mais parfois, l'entourage, l'environnement, limite, tu dois te battre avec ça pour je veux dire imposer, mais oui, imposer ta vision des choses aussi, parce que c'est un peu ça. Sinon, tu te laisses engloutir par le fil des événements, par le fil d'une autre vie, mais qui n'est pas la tienne. Un peu. Fait que c'est un peu un combat. C'est un peu un combat. Il faut imposer sa vision des choses aussi. Pas l'imposer aux autres, s'imposer à soi-même cette vision des choses. Parce que c'est quand même, c'est toujours vers nous que ça se dirige. Est-ce que tu, avant la maladie, et puis avant la découverte de ta passion de photo, est-ce que, du plus loin que tu peux remonter, est-ce que tu es quelqu'un qui était artistique, qui était attiré par les arts, même dans tes activités de vente et services à la clientèle?
Hey, pas du tout. On dirait que je prends du recul, là, puis je me souviens de mes cours d'art plastique à l'école, puis je me souviens de toutes les belles opportunités que j'ai eues de faire de l'art. Puis finalement, non, je voyais pas nécessairement la signification derrière ça. Je comprenais pas, je valorisais pas nécessairement la création en tant que telle. Je pense que j'avais pas encore goûté là, à un grand moment de créativité, puis que j'avais pas encore connu ça. J'ai tout le temps été quelqu'un qui a aimé parler, qui a aimé peut-être s'habiller. C'est que, tu sais, peut-être différents styles artistiques là-dedans. Mais la création faisait pas du tout partie de ma vie. Puis c'est d'ailleurs ce qui a été aussi le fun, c'est que c'est un domaine très inconnu. J'aime beaucoup la nouveauté dans la vie. Puis je trouve que plus qu'on en a à découvrir, plus que c'est fascinant en tant que tel. C'est que non, c'était vraiment pas dans mes habitudes.
OK.
Ouais.
C'est drôle. C'est du tout au tout. De quelqu'un qui était 0-0-0, puis qui est à fond des dents. Puis je suis sûr que les chances que tu repars de l'autre côté, elles sont nulles et nulles et nulles et nulles et nulles et nulles.
En fait, c'est particulier. Moi, je m'identifie pas comme en fait, je m'identifie pas, point, en général. Je pense pas que je suis un artiste, je pense pas que je suis un sportif, je suis tout ou je suis rien à la fois. C'est que peut-être que ma vie va changer, puis finalement, je ferai pas de l'art toute ma vie. Peut-être. Je laisse cette porte-là d'ouverte. C'est quelque chose que j'aime encore profondément. Mais je trouve ça important de suivre son cœur, de suivre ses envies en tant que tel. Puis ben, si mon cœur puis mes envies m'apportent ailleurs, ben, je vais quitter vers ce qui m'apporte du bonheur un peu. J'essaie de pas m'attacher à trop de choses dans la vie, que ça soit du matériel, ou que ça soit une image, ou que ça soit même des fois des gens, tu sais. C'est toutes des choses qu'on va finir par perdre un jour.
Ouais, c'est des attaches.
Je trouve ça vraiment humble, ta façon de voir l'art, parce que tu sais, tu disais tantôt que dans le fond, tu te considérais pas comme un artiste dans le sens que t'es juste quelqu'un qui voit les choses, qui les met ensemble. Mais moi, c'est drôle parce que je vois l'art comme ça. Parce que tu sais, en tant que musicien, les sons que j'utilise, c'est tous des sons qui sont déjà là, mais j'y mets ensemble. Puis là, c'est là que l'artiste y vient. Que je trouve ça très humble comme façon de le voir. Ouais.
Effectivement. La façon que je vois ça un peu, c'est que tout, en fait, l'univers, c'est toutes les possibilités, en fait. C'est le tout. Puis techniquement, tout a déjà été fait, tout a déjà été découvert, tout existe. Puis après ça, nous, on vient intégrer ces informations-là progressivement dans la personne qu'on est. C'est que c'est ça la découverte, en fait. C'est d'être capable d'apprécier l'univers puis tout ce qu'elle a à nous offrir. Après ça, comment que tu les découvres, dans quel ordre, puis dans comment que tu les classes ensemble dans les petites boîtes, là, effectivement, c'est un vol artistique parce que c'est comment que tu les classes. Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus personnel que ça, en fait, de voir comment que les gens créent, avec quoi qu'ils créent, parce que justement, c'est le reflet de leur âme, c'est le reflet de qu'est-ce qui les a intéressés. Puis ce que je trouve particulier de l'intérêt, Louis-David, c'est qu'on décide pas de qu'est-ce qu'on aime. J'ai l'impression qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, qu'on le découvre. C'est comme
ouais,
si...
c'est intéressant.
J'ai une photo de moi, là, c'est drôle, là, je suis enfant, je pense 3-4 ans. J'ai une salopette puis un chapeau de cow-boy. Puis ben là, on est à radio.
Là, aujourd'hui.
On est à radio, on voit pas comment je suis habillé. Mais j'ai une salopette puis un chapeau. Puis ça m'a pris des années avant de redécouvrir qui j'étais. Puis en fait, de retrouver qu'est-ce que j'aimais. Mais comme quand j'étais enfant, généralement, enfant, on pose beaucoup de décisions sans vraiment tenir compte de qu'est-ce que les gens peuvent penser de nous. Puis c'est ce que je trouve qui est beau, en fait, quand on vient être capable de s'assumer puis d'arrêter d'attribuer de l'importance à ce que les gens pensent de nous. On peut vraiment faire ce qu'on aime. Puis c'est ça, comme je disais, ce qu'on aime, c'est pas nécessairement ce qu'on décide d'aimer, c'est qui qu'on est.
C'est vrai, moi, j'ai jamais choisi d'aimer de faire des jingles avec des bruits de toilette.
Mais tu sais, c'est ça qui est beau, genre, c'est que c'est toi. C'est ouais. Ça que t'aimes, puis genre, il y a peut-être d'autres gens qui aiment pas nécessairement créer ça, mais tu sais, c'est ce qui est beau, c'est le tout ça, c'est ce que tout le monde aime faire, en fait, qu'on vient réunir ensemble, je trouve ça vraiment...
Merci. C'est comme un mime qu'on a entre Cédric puis moi, c'est qu'à chaque fois, j'essaie de le plugger à chaque épisode, puis de voir comment je vais le plugger. Fait que voilà.
Puis je suis toujours agréablement surpris à quel point ça peut être sorti du contexte, mais c'est artistique, tu vois un peu le truc, fait que... Qu'est-ce que les toilettes viennent faire, le bruit des toilettes viennent faire dans une émission de radio? Ça, c'est de l'art.
Non, mais c'est l'effort qu'il met. Récurer et frotter, non, mais c'est ça démontre l'aspect de travail acharné. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'efforts derrière.
En plus, il essaie d'expliquer le truc. Il va loin dans son truc, puis c'est bien. Regarde, chapeau, tugba.
Merci.
Quand même, les moindres choses.
Comment tu as découvert ça, ta passion de faire de la musique, de faire des sons comme ça? Ça a parti d'où?
Ça part de loin quand même. Mais l'histoire, c'est que ma passion des jingles est venue plus tard. Enfin, j'ai réalisé en venant à la radio, parce que j'ai vu qu'il y a la radio avec des jingles, je vais en faire. Puis j'ai réalisé que j'adorais faire ça. Mais c'est venu initialement. La musique, ça a toujours été présent dans ma vie. Fait que tu vois, on fait une pub. Louis-David Gingras, bienvenue à l'heure des histoires. Ça, tu vois, je vais me faire. Tu veux-tu m'inviter à mon émission? Check.
Bonjour Louis-David, ça va bien?
Oui, ça va bien. Parfait.
Hey, j'ai une idée. J'ai une idée. Je prends Samuel à témoin. Est-ce qu'il y a un festival des jingles qui existe?
Wow.
On pourrait l'inventer. Je serais probablement le
premier festival de jingles.
Je serais probablement dans les organisateurs. Ouais.
Non, mais je blague pas. Hein. On le fait. Bon, on le fait pas là. Okay. Mais c'est parce que quand on dit festival, les gens ils voient toujours le truc très gros.
Ouais.
Non, je veux dire que si tu te pointes. Deux personnes se pointent, c'est bon, on a un festival. Puis on espère qu'au prochain, il y ait six personnes. Non, je t'ai dit. Puis il y a un jury. Si Samuel veut être jury, on le prend.
Plaisir.
Puis nous trois, on est les jurys. Puis on donne pas de notes au niveau ressenti. OK, on estime que le numéro 2 bon, avait un jingle qui nous parlait. Regarde, tu gagnes le prix du meilleur jingle de... Je te jure, on partirait...
Vous avez du fun à le faire, c'est ça le succès au final.
Ça va être quelque chose. Puis, tu peux mettre des thématiques. Tu peux mettre thématiques
toilettes
d'été.
Toilettes d'été. Écoute, on préfère plein à faire, mais écoute, c'est ça. Mais oui, la passion, revenir à la question, d'où ça part. Mais bonne idée, Cédric, je pense qu'on devrait le faire.
On est après l'émission, on en reparlera.
On en reparlera.
Moi, ma théorie, c'est que tu avais tellement de jingles que tu t'es parti à une émission de radio pour pouvoir les sortir.
Moi, je pense que oui. Ou alors, non, mais c'est le contraire. Hein.
C'est le contraire.
C'est que.
Je les écris pour l'émission.
Pour l'émission.
Ah, ouais.
Oui, wow. Il s'est fait une.
À chaque semaine, j'en crée.
Une banque
en fait.
De données. Oh, ouais.
Aujourd'hui, c'est à peu près aux deux semaines, je leur donne un petit break, là, mais aux deux semaines, j'en rajoute 4-5. Fait que là, tu vois, la semaine prochaine, il va en avoir des nouveaux. Là. Parce que oui, j'ai un jingle pour ça. La semaine prochaine, il va avoir.
Des nouveaux jingles.
Wow. Ça fait beaucoup de jingles.
Hey, c'est comment que tu les gères? Comment ils sont tout le temps à portée de main puis qu'ils sont prêts pour chacune des opportunités?
Ben, ici, j'ai le jazzler, puis là, tu vois, j'en ai au moins 12 que je vois. Mais là, je suis rendu à 2 pages, comme disait le jingle, tu vois.
12 centaines sur 4 écrans. Vous ne voyez pas en studio, là, mais Louis David a comme 8 écrans pour tout gérer ses jingles.
Ça ressemble à ça, mais tu sais, je pensais jamais faire ça. Puis l'histoire, c'est ce que tu me racontes comme histoire, c'est un peu similaire à moi, parce que dans le sens, moi, j'ai commencé, j'étais musicien. Puis tu sais, souvent, l'image qu'on a des musiciens, c'est qu'ils font de la performance de scène et tout. Mais moi, j'ai réalisé que j'aimais ça, faire ça, mais c'était pas tant mon truc. Puis là, plus tard, j'ai réalisé que tu pouvais faire de la production audio. J'ai commencé à créer des chansons, puis là, je me sentais vraiment dans mon élément. Parce que là, je pouvais comme faire des univers complets avec juste moi-même. Tandis que, tu sais, quand je suis à mon piano, je joue, je peux juste faire mon piano puis ma voix. Fait que c'est comme un peu limité. Tandis que là, je pouvais faire des couches et des couches. Puis là, j'ai commencé à découvrir ça. Puis là, plus tard, ben, c'est venu à moi que j'aimais ça, faire des effets sonores. Puis dans ma musique, c'est très cinématique. Il y a beaucoup de sons ambiants. Puis j'aime ça utiliser les sons de la nature. Fait que là, j'ai réalisé que j'aimais ça faire des jingles à la radio, puis là c'était vraiment, ça combinait l'humour et l'aspect des sons de la nature et tout, puis de la musique, fait que il y avait tout ce que j'aime.
Ouais, puis c'est rare ce que tu m'as envoyé d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Louis David m'avait envoyé de la musique parce que je cherchais de la musique pour la série télé, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, puis je trouve que c'est vraiment un talent fascinant que j'ai pas. D'ailleurs, la raison pour laquelle ça me fascine autant, d'être capable d'aussi bien jouer avec un fil d'émotion, d'apporter le téléspectateur sur une montagne russe d'émotions qui l'apporte finalement à un point final. Je trouve ça vraiment hot. Puis d'ailleurs, d'intégrer les sons de la nature là-dessus, je trouve que c'est vraiment une belle façon de se démarquer aussi, mais en même temps, une belle façon de ramener le naturel de la chose. C'est que chapeau, sérieux.
Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il va y avoir des sons de Louis David dans ta série?
J'aimerais beaucoup ça. En fait, il va falloir que ça se prête à mes images. Okay. J'ai comme l'impression que j'ai pas tout à fait le contrôle là-dessus parce que ça va être comme sur qu'est-ce que j'ai filmé. Okay. Mais je peux certainement m'accorder en partie. Puis Louis David m'avait envoyé une sélection. Puis,
et moi, je peux faire tout sur mesure.
Ouais, en plus. Okay. Ben, ça, vois-tu, ça offre beaucoup de possibilités à collaborer ensemble, franchement. Là. D'ailleurs, j'ai commencé le montage de la première épisode, c'est que je devrais te faire signer prochainement.
Incroyable. Ouais. Incroyable. Écoute, à l'heure des histoires, on est choyés. On est vraiment choyés. Ben, tu vois, là, j'ai goût de plugin mes jingles parce que ça va faire une transition. Fait que maintenant, je dirais que c'est l'heure.
On n'arrête pas de poser des questions depuis que ça a commencé.
Ouais, non, mais je voulais juste plugger mon jingle. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, je m'ennuie d'eux. Tu sais, c'est comme mes enfants. Tu sais, je m'ennuie d'eux. Tu sais, quand je les vois pas, ça fait longtemps. Mm-hmm. Comprenez-vous ça à la maison, vous, des fois, considérez votre tort comme des enfants, genre?
Ben oui, qu'il faut éduquer, qu'il faut entretenir, toi, qu'il ça te faut fait faire ça? Évoluer.
Vois-tu, non? j'ai un très bon lâcher-prise, puis je trouve que mon art vieillit pas toujours de la façon que je l'aimerais. Je voudrais, tu sais, on évolue à travers notre art. Par exemple, regarde tes jingles que t'as peut-être fait, il y a genre, ou tu sais, de la musique que t'as faite il y a peut-être 5 ans, genre, ou je sais pas combien d'années.
Des fois,
là, c'est comme,
tu veux pas les voir. Tu fais comment? Ouais, non, c'est bon, c'est du passé. C'est du passé, ça.
Là, tout reste sur Internet, des fois, puis je trouve ça difficile, je vais faire le ménage là-dedans, je suis comme, oh, ok, là. Mais en même temps, je trouve ça beau, tu sais, de voir le chemin qu'on fait en tant qu'artiste, de revisiter les anciennes œuvres. Puis il y a des affaires qui avaient des trucs vraiment talentueux, des affaires que tu sais, je m'éparte le mois il y a 3-4 ans, tu sais, de qu'est-ce que j'avais fait.
Faut les laisser, moi, je pense.
Ouais.
Parce que même si toi, tu te juges, je pense que ça peut amener à quelqu'un, puis de voir tout le chemin que t'as fait, je pense que c'est bénéfique. T'sais, si je laisse mes vieilles chansons, que la production était vraiment discutable et tout, les gens peuvent se dire, OK, mais il a commencé là. Fait que ça donne de l'espoir, puis ils disent, OK, tu peux te progresser, même si c'est au début, ça peut être le pire. Puis tu sais, c'est des bons exemples, moi, je trouve, de progression.
Ouais.
Garde-le.
Ben, je suis super d'accord avec ton statement parce que, tu sais, justement, des fois, je dis souvent qu'il y a comme un équilibre dans l'art à se comparer avec ce que les autres font pour pouvoir s'améliorer, mais pas trop se comparer parce que sinon, on vient comme avoir peur un peu, puis on trouve que les autres sont meilleurs, puis on a comme une genre de petite anxiété de performance. Puis en laissant le chemin par lequel tu as passé, c'est qu'en laissant tes anciennes œuvres, tu sais, ça vient montrer aux gens qui veulent commencer justement que ça peut pas être parfait dès le début, tu sais, puis on vient pas de naître un artiste formidable du jour au lendemain comme ça, tu sais.
C'est ça, puis je pense que c'est important de voir ça, de voir, parce que souvent on a l'image des artistes qu'on voit aujourd'hui qui sont comme accessibles, c'est souvent du monde qui ont de l'expérience. Puis tu parlais de ça avant l'émission, tu disais que souvent quand tu te fais engager, c'est difficile quand tu commences de te faire engager, quand tu fais ton premier contrat. Tu sais, moi par exemple, j'ai pas d'expérience dans les jeux vidéo, mais tu sais, pour moi ça serait c'est difficile quand même de réussir à me faire engager en ce moment, mais le moment que je vais en faire un, là, ça, tu vas voir, ça va découler. Fait que je pense que cet aspect-là aussi, que d'expérience, que c'est ouais, qui est important de laisser. Ouais.
Ouais, c'est un genre de momentum exponentiel un peu, tu sais. Puis c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à le faire, même si c'est pas pour le travail, tu sais, à juste mettre des photos ou faire des vidéos puis les sortir quand même. Puis ben là, après ça, les gens vont finir par te connaître, tu sais. Moi, ça a vraiment été sur les réseaux sociaux que ça a parti, là. Mes premiers contrats, on m'a appelé pour les faire, tu sais. J'ai pas nécessairement eu à démarcher. Puis on me dit, hey, tu fais de la photo? Puis j'ai fait, ouais. Puis tu sais, j'avais jamais fait de contrat pour personne d'autre encore. Puis ah, ok, tu peux m'envoyer une facture, t'as une entreprise. Puis je suis comme, ouais. C'est un genre de fake it till you make it.
Tu l'as créé, ouais.
Finalement, je l'ai créé sur le side, là. Puis tu sais, ça d'ailleurs, c'est des affaires qu'on voit super gros, là, mais qui finalement sont pas si compliquées que ça, tu sais. Mais un coup que t'as juste fait tes preuves en ligne, ben les gens au moins ils peuvent
c'est
t'engager
ça,
plus facilement.
Ça demande pas tant de difficultés. Tu sais, tout le monde peut se faire un compte YouTube puis se mettre à faire des vidéos ou de la musique, là. Tu sais, je pense que souvent on a l'impression que c'est plus compliqué que ce qu'on le pense. Puis le plus compliqué, c'est dans notre tête, en fait. Mais une fois que t'as les outils, ouais. Tu trouves les outils. T'sais, moi, je vais trouver ça 200 pièces une carte de son, tout. C'était pas tant cher là, pour tout ce que je pouvais faire avec ça. Là. Fait que je suis allé avec ça, puis doom, après ça, boom, bang, 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 puis ça a tout déboulé. Puis
ouais.
j'ai commencé à créer. Fait que je me dis que, ouais, c'est ça, faut juste commencer.
Ouais, faut juste le faire. Faut juste le faire. Puis, même si t'as pas de contrat, t'es pas appelé, je dirais que t'es quand même en train de peaufiner ton
ouais,
outil.
C'est ça.
En train de peaufiner ton art, tu vois. Puis le jour qu'on t'appelle, bah, t'es optimal. Tu vois, t'as pas besoin de réécrire ou refaire tes jingles. Tu sais déjà quoi faire. Mm. Fait que tu vas juste les faire parce que tu les as toujours fait, tu vois.
Ouais.
Fait que c'est pas du temps perdu. Puis ça fait des œuvres quand même. Ça fait que tu peux aller toucher plusieurs aspects. Puis il y a des défis. Comme, oh, bon, là, je pense que j'ai les toilettes, c'est bon. Là, je vais aller faire, je sais pas, la salle de bain. Tu sais, des trucs comme ça, tu t'essaies les
choses. Puis, cet apprentissage-là, en fait, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de formation. Puis tu peux charger en conséquence. Puis moi, ça, c'est un volet que j'ai beaucoup aimé, tu sais, d'être en affaires. C'est que t'es pas nécessairement comme payé à l'heure. T'es payé au rendement. T'es payé à la qualité de qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais. Puis, justement, tu sais, généralement, les limites qu'on a, c'est celles qu'on se met nous-mêmes, tu sais. Puis, c'est un gros combat mental, là. Je vous dirais que ça a l'air facile de juste le faire, là.
Non,
c'est pas de même, tu sais. Il faut que tu te convainques que t'es assez bon pour le faire, mais en même temps, tu vois les autres qui sont meilleurs, puis t'as le syndrome d'imposteur, là, faut que tu combattes ça, faut que tu te dis que si tu fais jamais rien, tu t'auras pas de plaisir, puis...
Ben, quand tu dis c'est cool quand tu dis c'est formateur. En fait, c'est que, si on va à l'université, des gens vont à l'université, ils vont au cégep, ils paient des formations. Je veux dire que si toi t'as la chance de faire ton art déjà, je veux dire que c'est ta formation, c'est ton université, fais-le aussi sérieusement que celui qui a payé pour aller à l'université. Puis la différence avec, je suis pas en train de dénigrer, de juger l'université, c'est que quand tu le fais toi-même, t'as pas le choix de découvrir que, hey, merde, ok, je suis pas bon dans tel secteur de mon domaine, ah, il faut que je le corrige. Hey, ça me dérange de travailler tant nombre de temps. Ah hey, non, ok, dépasser tel nombre de temps, je ça m'énerve. Ok, je vais essayer de mettre ça dans un intervalle d'heures qui me rende efficace, tu vois. Je lis ça puis ouais non ça me... mais c'est avec toi-même, c'est une auto-formation. Puis si elle est lucide, je te dis, tu fais des bons rapides d'amélioration dans ton affaire. Ce que l'université parfois ne permet pas beaucoup parce que la formation est déjà préétablie. Ils vont te donner des trucs bien faits, mais quand tu fais ta formation, bah c'est toi qui crée et tes stages et tes modules de formation et tes examens, c'est toi-même, tu vois.
Faut apprendre à apprendre.
Exactement.
Ça, c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas nécessairement des fois.
Non.
C'est ce que je trouve important de favoriser puis de valoriser en fait les gens qui sont autodidactes puis qui suivent leur passion puis qui ont décidé de le faire. Puis justement, tu sais, d'être fidèle à soi-même dans ses envies, tu sais, de voir tes temps de productivité, tu sais, si toi t'es productif le matin, favorise le matin, ben, puis
c'est on dit comme ça, les gens ont l'impression que il faut que tu découvres ta formule de production.
Exact.
Si on va dire ça.
Exact.
Toi là, si je te dis OK, toi regarde, je veux que tu me fasses ça. Tu le feras comment? Tu veux, OK, regarde, voilà ma méthode. C'est ma méthode. École à moi là. Réveille-moi à 4 heures, je vais la faire. C'est la mienne, tu vois un peu. Réveille-moi à 5 heures. Amène-moi au Bhoutan ou en Alaska ou en Chine. Je vais la faire. C'est ma méthode. Elle marche parce que j'ai fait moi-même la preuve qu'elle marche. C'est pas un influenceur ou un professeur qui m'a. Non, c'est la mienne. Je dis. Puis tu veux une preuve? Ben, j'ai produit ça. Mm-hmm. J'ai produit ça. J'ai produit ça. J'ai produit ça. C'est ça, que c'est la preuve palpable qu'elle marche.
Valoriser le résultat plus que la démarche.
Exactement.
Des fois, la démarche peut être douteuse, surtout chez les artistes. Là.
Questionne même. En fait, laisse faire. Pour les artistes, questionne pas la démarche. Parce que, d'abord, un artiste qui te dit qu'il a une démarche claire, il te ment. Il veut juste bien paraître. Si les gens te disent les processus de créativité, écoute, non, ça marche pas. Ça peut pas marcher parce que c'est quelque chose qui ne touche pas. Des domaines préétablis. L'intuition, là, tu sais pas comment elle va te... Tu sais pas le chemin qu'elle va prendre.
Oui, puis tu la contrôles tellement pas. Ça, c'est un volet qui est difficile là, en art, là, c'est d'être capable de promettre une performance d'avance. J'admire tellement là, les artistes musicaux qui vont comme « Hey, OK, dans 6 mois, je vais être au Centre Bell, puis genre, je vais être de bonne humeur, puis je vais chanter une tonne pleine d'énergie, puis tout. » J'y trouve là, vraiment hâte là, d'être capable de faire ça. Moi, il y a des journées où est-ce que je me réveille, puis honnêtement, je suis un peu mal dormi, je me sens pas full créatif, puis je me dois d'être créatif. Ouais, je fais avec ce que j'ai, tu sais, puis d'apprendre à contrôler cette vibe-là en particulier, là, c'est un gros travail de l'art.
Il faut que tu le changes, il faut que tu persévères à travers. Puis, tu sais, moi, souvent, c'est que je vais y aller direct. Je vais créer une toune qui va m'amener dans le mood. Fait que, tu sais, des fois, il y a des jours que c'est difficile. Ben, je vais faire, OK, là, je crée une toune qui est hype, là. Puis là, tout à coup, ça te force à te mettre là-dedans. Mais c'est sûr que des fois, t'es tellement loin de cette vibe-là que c'est difficile de te rendre là. Fait qu'il faut que tu fasses de quoi avant.
Faut que tu prennes un chemin logique. Si, mettons, t'es triste, tu peux pas prendre. Ouais, drette ça, c'est super bon. C'est un outil que j'adore, là. Mais effectivement, tu sais, on peut pas faire du 180 degrés. Si t'es triste, tu peux pas aller d'extatique tout de suite. C'est faut que comme un peu, bon, tu montes là, un peu mélancolique, là, puis après ça, tu viens neutre, puis à un moment donné, tu montes. Mais la musique, c'est ce que je trouve en fait l'art en général. C'est la raison pour laquelle je trouve ça autant important. Là. Moi, c'est important d'avoir un meaning, puis de faire de quoi d'important dans la vie. Puis en fait, on expérimente la vie selon nos sentiments. Puis je pense qu'on n'attribue pas assez d'importance aux sentiments en général. Puis d'être capable de contrôler, ou du moins, pas contrôler, mais influencer, puis aider les gens dans leur gestion des sentiments en faisant de la musique joyeuse quand t'es triste, par exemple. Je pense qu'il y a rien de plus important que ça pour passer un bon moment sur Terre. Okay.
C'est ça. Mais Honoris, c'est ça. Qui est là aussi, ouais. Tu sais, des fois, je crée des chansons tristes, puis ça transcende l'émotion qui est là.
Oui, ouais, c'est ça que je veux dire. Il faut s'aider à créer, il faut s'aider à produire. Parce que rien n'est dit, comme tu disais tout à l'heure, que le matin, je me réveille en forme, mais je dois le faire. Par contre, je le parle à titre personnel, je dois respecter ça. Je dois le faire et je vais m'arranger pour que ça se fasse. Maintenant, dans quelle proportion? Je sais pas. Il y a des jours où ça va se faire sur un 4 heures. Nice. Il y a des jours où ça va se faire sur une heure et je serai satisfait de mon 1 heure. Pourquoi? Ça s'est fait. Tout allait pour que ça ne se fasse pas, ça s'est fait. J'allais pas bien, ben écoute, j'ai dormi un peu plus. J'avais des idées pas très 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 joyeuses, bah j'ai pensé à une série, un film, une bande, quelque chose qui me rend heureux. Je suis allé manger un truc que j'aime bien. Tu sais, tout ça pour atténuer le fait que, parce qu'oublie pas, nous-mêmes on se donne des. Parfois on cède pas. Tu sais, on fait tout. On dirait qu'on fait tout pour ne pas faire. Tu en peux.
Ah ouais.
Fait que bah fais tout pour le faire. Tu en peux. Même si tu le fais un peu, puis tu. Hey, ça a été dur aujourd'hui. Ça a été rough. Mais je l'ai fait. Ah ouais. Merde. Ok.
Juste en gardant l'équilibre de comme il faut quand même vivre ces sentiments là. Puis si tu les ignores, ils vont finir par revenir pour faire une grosse boule plus tard puis te péter dans la face. Fait que ouais, c'est un dur d'équilibre entre lâcher prise puis régler le problème.
Ouais, c'est intéressant. Et quand vous avez parlé tantôt de processus créatif, ça me fait penser à la série noire. Puis, là, des fois, eux, dans la série, ils s'en vont. Puis, ils créent une série sur des gangsters, genre. Okay. Puis là, ils s'en vont dans une. Ils se ramassent dans le cartel. Puis tout, là, c'est très drôle. Ça me fait penser à ça. Je me disais, ouais, c'est vrai que des fois, faut pas critiquer la démarche artistique. Puis finalement, ils ont écrit la meilleure série parce que justement, ils étaient de l'intérieur du.
Ouais.
Puis ils disent, oh, c'est ma démarche artistique. T'sais, puis ils parlent à leur producteur. Puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une bombe devant? Pourquoi le truc a explosé devant chez nous? Ah ouais, c'est notre démarche artistique.
Ouais, mais c'est ça, il y a pas de meilleure façon de comprendre les choses que de s'immerser complètement puis de le faire. Mm-hmm. On peut pas juger de l'extérieur tout le temps.
C'est vrai. Puis tu sais, moi, je juge pas quand la pause elle arrive. Là.
Moi non plus. Hein.
Let's go.
Fait que voilà. Donc, j'envoie la pause. Puis après ça, on revient avec plus d'informations. On revient avec quoi?
Ouais, information, décision, action.
Ouais, c'était bon ça, j'aimerais ça qu'on en reparle. Hein. Après la pause.
Après la pause, sans faute. Oh, je pèse sur le mauvais piton. Mais là, je pèse sur le bon piton.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec. conduite antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À Conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun, voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé, d'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui sont aussi amies et cousines. Ben, je vous suggère fortement d'écouter l'émission culturelle et anecdotique 10 entre nous.
À travers des thématiques variées, on vous fait part de nos expériences personnelles et communes, de nos meilleurs souvenirs de jeunesse, en s'appuyant chaque fois sur la musique, le cinéma et la littérature. À 10 entre nous, la nostalgie coule à flot et ça se passe un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Nous sommes de retour. Yeah. Alors, des histoires. Donc, voilà. C'était Tennyson. J'adore Tennyson. Tennyson, c'est un artiste canadien. Puis okay. Là, c'est un remix de Spider-Man.
Spider-Man,
Far From Home. Fait que c'est ça, Far From Home. Puis, dans le fond, ce qui est cool avec ça, c'est que, tu sais, là, je voulais être... Ouais, attends, je l'ai dit, mon jingle. Je voulais être...
Thématique.
Fait que j'ai une thématique aussi. Là, Sam, il disait qu'il aimait ça, la musique comme électro-acoustique. Fait que là, j'ai opté vers ça. Puis là, on était comme dans les films un peu vidéo. Mmh. Fait que là, j'ai allé vers ça. Donc voilà.
Full thématique.
Fait que c'est ça. Puis là, toi, en plus, tu parlais de super-héros. Tu disais que tu te sentais comme un super-héros.
Ouais, mais en fait, je parlais des archétypes. Puis moi, ça a été comme une genre de petite programmation. Je vais appeler ça une programmation. C'est une façon de penser, en fait, qui m'aide à accomplir mes tâches. C'est que, par exemple, disons que j'ai ici, je peux prendre l'archétype d'animateur de radio.
Oh yeah! C'est que,
on dirait qu'en portant cette image-là, j'utilise ma créativité pour mieux accomplir mes tâches du quotidien. Puis ben, tu sais, je peux le faire dans des contextes, je peux prendre le clown avec des amis, je peux prendre le producteur quand je travaille, puis ainsi de suite. Puis je pense qu'on devrait pas comme sous-estimer la force de la créativité pour accomplir des tâches des fois plus formelles, tu sais. Mm-hmm. Quand on réussit à se mettre dans le bon mindset, là, ça change vraiment tout.
Mm-hmm. Ben, je pense que c'est un peu ça. Quand t'as trouvé ton tes fondamentaux, ton être, tous les jours on change de costume. Tu sais, mm-hmm. que si t'es une copine, bah t'es le copain de ta copine. Quand t'es avec les amis, bah, t'es les amis de tes amis. Que tu le veuilles ou pas, tu es amené à changer de costume. Maintenant, si tu le fais encore consciemment, bah, écoute, tu te nourris pleinement de ton nouveau rôle à chaque fois. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qui tu es à ce moment-là?
Ouais.
Puis c'est merveilleux. Au lieu de juste être passif, puis ok, bon, mes amis sont là, bah je suis là. Tout le monde est là, bah je suis là. Je veux dire que essaye de prendre acte du truc, tu vois un peu. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Ça vibre différemment, tu vois un peu. Être conscient de ça, bah tu saisis des affaires que quelqu'un de passif n'aurait pas saisies.
Ouais, puis ce qui est difficile beaucoup, je trouve, c'est d'être conscient de ça quand t'es pas nécessairement là. Je veux dire, comme, tu sais, dans la vie, on a plein d'outils pour mieux aller. Puis quand on va bien, on les voit, ces outils-là. On sait quoi faire. Ouais, pis, ouais. Mais là, quand on va pas, là, on voit rien. Là, on vient comme aveugle. Mmh. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est important. J'ai peut-être envie qu'on dérape vers cette partie-là, tu sais, mmh. de comment qu'on se gère mentalement pour être capable d'accomplir ses objectifs et d'avoir une vie le fun en tant que telle. Mmh. Parce que, tu sais, moi, ça m'a pris beaucoup de travail. Là. Je suis quelqu'un d'assez sensible, là, autant positivement que négativement. J'ai une grande amplitude émotionnelle. Puis, comme je peux avoir beaucoup de plaisir, des fois, je peux trouver la vie vraiment dure. Puis, ben, chez nous, je me suis fait comme des tableaux avec des trucs pour mieux filer, qui sont comme sur mon mur en tant que tel. Puis même encore là, des fois, je vois pas. Puis tu sais, je lis mon tableau, puis je fais mes trucs. Mais même encore à ça, des fois, on dirait que je vois pas le tableau parce que je perds mes outils, je perds mes guides. Mm-hmm. Puis les outils, ça, c'est quelque chose... Je vais parler des outils qui sont pas nécessairement physiques. Parce que j'ai plein d'outils physiques pour faire mon métier. Là, un appareil, c'est bien beau, des lentilles, des drones, puis tout ça. Mais l'hypnose a comme pris une place là, dans ma vie qui était vraiment intéressante pour être capable de défaire des peurs. Parce qu'en fait, tout ce qui me sépare de qu'est-ce que je veux être, c'est mes peurs puis c'est les actions. Tantôt, comment que t'as dit, Cédric, là, les trois points, je trouve
ça. On avait dit information, décision et action.
Ouais, mais ça, ouais. J'ai trouvé ça super fascinant que t'apportes ça parce que, tu sais, un coup qu'on a les bonnes informations, si on porte pas de décision sur quoi faire puis qu'après ça, on porte pas action, il y a rien qui va se produire. Puis des fois, ce qui nous empêche de faire ça, ben, c'est des fois qu'on n'a pas d'idée. C'est que là, c'est la découverte. C'est que pour moi, c'était de partir en van puis d'explorer. Après ça, de prendre des décisions. Ouais, mais là, c'est difficile un peu, mais des fois, c'est de s'affirmer. Puis c'est des fois de juste prendre une décision au hasard puis d'assumer les conséquences qu'il va avoir. Puis après ça, l'action, ben là, c'est généralement les peurs qui nous empêchent de prendre action. Puis pour moi, ces peurs-là, la façon que j'ai trouvé de les défaire, c'est encore là jouer avec mon imaginaire. C'est que, admettons que j'ai peur de passer sur le pont de Québec, OK? Ben là, tu sais, à toutes les fois que je le vois, ben j'imagine tous les scénarios qui peuvent se passer négativement, qui tombent ou que je fais un accident ou que je tombe en panne, puis... C'est que là, ça marche pas. Mais là, si tu te fermes les yeux puis que tu te concentres attentivement, que tu passes sur le pont, puis ça va bien. Puis tu t'en passe sur le pont encore une autre fois, puis ça va bien. Puis là, tu le fais 10 fois.
Tu fermes les yeux en passant le pont, je suis pas sûr de ça.
Hein? Non. Pas quand t'es sur le pont en char. Là. Mais avant, tu sais, tu te programmes chez vous, là, puis tu sais, il y a des experts pour faire ça. Là, puis tu sais, je sors totalement de mon domaine quand je parle de ces choses-là. Mais moi, c'est un truc qui m'a aidé, tu sais. Puis après ça, quand tu réussis à t'imaginer que tu passes 10 fois sur le pont, puis qu'après ça, tu passes pour de vrai dessus, ton cerveau fait pas nécessairement la distinction entre ce qui s'est passé dans le passé puis ce que tu as imaginé.
Ouais.
C'est que là, tu réussis à défaire tes peurs puis à créer un chemin neuronal pour être capable de faire ce que tu as à faire. Puis tout le monde a ses combats, tout le monde a ses peurs, puis quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas peur, c'est impossible. Moi, c'était de m'exposer, puis c'était de parler en public, puis c'était de dire qui j'étais. Il y a des fois que c'était super facile, puis il y a des fois que j'étais super self-conscious là-dessus, puis j'étais pas capable de le faire. Des fois, c'était juste d'être assidu dans mon travail. Tantôt, je pense que c'est toi, Louis-David, qui disait, tu sais, il y a beaucoup d'artistes... Non, c'est Cédric qui disait ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ont plein de bonnes idées, mais qui portent pas nécessairement action. Puis cette phase-là, c'est la démarche. Puis c'est des fois le côté un petit peu plus plate. C'est d'avoir des idées, ça coule comme dans une rivière, puis à un moment donné, il faut les mettre en boîte. Puis les mettre en boîte, c'est une photo, ou c'est une vidéo, ou c'est une peinture. Puis si on laisse tout le temps ça couler, puis qu'on les immortalise pas, là, ces idées-là, ben, ils disparaissent.
Ouais.
Puis ben, ça demande de la rigueur puis du travail.
Exactement. Puis je pense que... on est les artistes, on n'est pas cons, on le sait un peu. Parce que cette partie-là, c'est la partie où tu n'as pas le choix de t'impliquer. Et ça ne se fait pas en une minute. Tu sais que ça va prendre du temps, tu sais que ça va prendre du travail, tu sais que ça va prendre de la discipline.
Exact.
Il faut le faire. Il faut le faire parce que tout le monde a un peu des idées. On a tous des idées. Puis on peut en discuter, on peut les développer. On peut créer des mondes pas possibles avec nos idées dans la tête. Mais l'action... Ça reste l'action parce qu'il y a une réalité qui est là. C'est que tu auras beau avoir des idées, mais on ne les voit pas, tes idées. Mm-hmm. Ça reste dans la tête. Mm-hmm. On ne les voit pas, tes idées. Comment tu as matérialisé ça? Comment tu as donné vie à quelque chose qui n'était pas là? Tu vois un peu? Et là, les gens font comme, bah, OK. Lui, en plus d'avoir une activité imaginative florissante, il a donné vie. Fait qu'il est capable de donner vie à quelque chose. Et ça marche. Il a donné vie plusieurs fois. OK, là, tu fais preuve de vie, bah, tu vis. Tu penses pas, tu penses et tu vis, tu vois un peu.
Ouais.
Puis, je pense que c'est le pas que beaucoup de personnes, pas qu'ils ne veulent pas faire, comme tu disais tantôt, il y a des gens qui ont inconsciemment des blocages, il y a des gens qui sont confortables dans une sphère et qui sont conscients que l'autre sphère va demander beaucoup de travail, ils veulent peut-être pas fournir cette charge de travail-là, puis c'est libre à eux.
Ouais.
Mais un artiste, un artisan, un passionné, un vrai passionné, ça prend les trois. Il faut que tu t'affirmes parce que dans tous les domaines, il n'y a personne qui va dire « Oh, Samuel, oh, Samuel, t'es beau, tu fais tout, entre. » Non. T'as fait quoi, Samuel?
Ouais.
Tout le monde va dire « T'as fait quoi, Samuel?
Ouais. »
Tu parles bien, Samuel, t'as des bonnes idées, mais t'as fait quoi?
Parce que tu peux penser à plein d'affaires, mais si tu ne les mets pas en place,
Samuel, t'as fait quoi? Je veux dire que... Tu veux que je te prenne? Moi, j'ai quelqu'un qui pense pas beaucoup, mais il fait les affaires. Je peux dire qu'il fait des affaires. Puis moi, j'ai besoin que mon affaire roule. Puis moi, je vais prendre ses affaires. Toi, tu fais comme...
Ouais. Hey,
merde, OK. C'est-tu personnel? Non, c'est pas personnel. C'est vrai. T'as fait quoi?
Ouais.
C'est où ce que t'as fait?
C'est quoi la différence des fois? C'est que, mettons, il y a des gens qui ils veulent pas nécessairement porter action parce qu'ils trouvent que leurs idées sont pas nécessairement bonnes, parce qu'ils sont pas assez créatifs, intelligents, ou fouille-moi quoi. Mais je pense que qu'est-ce qui distingue vraiment quelqu'un qui va... En fait, pour avoir du succès puis avoir du bonheur, puis peu importe c'est quoi votre définition du succès puis du bonheur, je pense que ça prend du courage. Puis c'est d'ailleurs, c'est quelque chose que je veux vraiment pousser dans mon art. Puis je pense qu'on valorise... parfois le résultat, mais pas nécessairement la démarche aussi de comment être courageux. Qu'est-ce qu'on a fait, les échecs qu'on a eus, on en a parlé un peu tantôt là, en dehors des ondes, de valoriser l'échec. De quelqu'un qui a eu un succès a vécu 9 échecs avant d'avoir son succès peut-être. Ça, on n'en parle pas assez. Puis
la pédagogie de la mise en action de quelque chose, c'est aussi que... comme je disais tout à l'heure, le courage est important. Le courage de faire, se dire, hey, j'ai fait, OK, ça ressemble à ce que quelqu'un a déjà fait. Oh, bah, c'est pas grave, moi je l'ai fait, je vais le refaire. Ou, se dire, OK, je l'ai fait. Finalement, je l'avoue, c'est pas si hot que ça. Je pense que je peux mieux faire. Il faut que les gens acceptent aussi de vivre ça. Parce que parfois, on pense que la mise en action de quelque chose, c'est nécessairement waouh. Non, pas nécessairement. Ça, non. Toi-même, tu peux dire ok, mon idée était peut-être plus belle que ce que je vois. Mm-hmm. Regarde, c'est pas grave. Je l'ai fait, je l'ai amené à terme. Au moins, j'ai la preuve que c'est pas ça que je veux. Ok, je repars au truc. Mais il faut arriver là, parce que tu t'arrêtes, c'est trop flou, les idées. C'est trop nébuleux. C'est trop dans la tête, les idées. Mais les sortir de la tête, tu vas voir c'est quoi ton idée. C'est-tu vraiment aussi hot que tu le pensais? C'est-tu aussi bien peaufiné que tu le pensais? Non. Oui ou non.
Puis ça, tu vas le voir. Des fois, ça prend une autre direction en plus. C'est ça, c'est l'essence créatrice est là, mais après ça, la forme qui prend est souvent différente de la forme qu'on avait imaginée. Puis c'est là aussi qu'un bon artiste rentre en jeu, parce qu'un bon artiste sait s'adapter en fonction de ce qui est là, écouter les cues, parce que c'est toutes des cues. Puis tu sais, quand il y a une pièce qui se libère devant moi, que je vois des idées musicales, des fois, c'est déjà arrivé, mettons que mon chat il miaulait dans le background, par exemple, c'est un exemple que j'aime donner, mon chat il miaulait, tout à coup, il chantait une note, c'est quand même très drôle ça, là, mais il chantait une note que j'entendais pas, j'étais comme aïe aïe, mon chat il m'a inspiré quelque chose, fait que là finalement je sortais un nouvel accord, puis j'étais comme ok, cette note-là a fait au bout à ce bout-là. Fait que là, j'ai remercié mon chat, puis les cues. Tu sais, des fois, le vent, il se met à souffler, puis là, tu dis, ah, c'est bon, du vent. Fait que faut être à l'écoute de ce qui est là, puis ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant, puis que le processus créatif devient intéressant. Parce que si tu as tout dans ta tête d'une shot, puis que tu le fais, ben ton idée, tu sais, c'est quoi qui se passe de le fun dans cette histoire-là?
Ouais, de rester ouvert d'esprit quand tu dois, tu sais, mettre en boîte une idée, là, comme j'aime l'appeler, c'est un peu fermer son esprit en certains égards. Faut que tu mettes des barrières autour de ton idée puis que tu le mettes en boîte. Mais il faut quand même que les limites, les frontières de ta boîte restent assez perméables pour laisser rentrer d'autres idées en cours de route, tu sais, tellement. Je suis pas d'accord avec ta démarche. Tu sais, moi, je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais pas faire ça parce que je me faisais des pré-productions, des scripts, puis finalement, ben, sur place, tu sais, ça se passait vraiment pas pareil, Sakishi. À un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais juste comme essayer de composer le plus possible sur le fly en arrivant sur place avec qu'est-ce que je vais mettre un peu de limite, mais tu sais, encore des fois, il n'y a pas assez de limite, il n'y a pas assez de structure, puis là, il faut que je retrouve l'équilibre à travers tout ça, là, mais c'est pas évident. Là.
Mais j'ai une question pour toi, parce que tu sais, des fois, les gens, là, tu parles comme si c'est tout le temps toi qui est comme le scénariste, mais des fois, est-ce que les gens, ils ont comme une vision claire de ce qu'ils veulent, puis est-ce que tu peux te sentir restreint par ça?
Ouais, c'est sûr. Puis en même temps, des fois, ces limitations-là, c'est des bonnes choses parce que sinon, je pourrais partir un peu partout. C'est que d'avoir un sujet clair. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre le temps avec mon client de lui poser les questions, premièrement, tu sais, de qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, c'est quoi son objectif, là, c'est vraiment ça l'important. Après ça, de quelle façon qu'il veut le mettre. Mais ce que je fais généralement, c'est que j'inclus mon client dans le processus artistique. C'est que là, il n'y a pas le choix, en fait, d'être satisfait, entre guillemets, parce que c'est ses idées en partie. Puis moi, je viens être un peu le traducteur, tu sais. Lui, il a des idées, il veut faire quelque chose, puis moi, je le mets place. Encore là, il faut qu'il soit assez réceptif à avoir, tu sais, je dois mettre mes limites, là. Puis ça, c'est une autre difficulté des fois. C'est, je veux plaire au client, mais en même temps, je dois mettre mes limites pour que ça fasse de quoi de le fun, tu sais, sa vidéo, qu'elle soit écoutable, qu'elle ait un format qui se respecte. C'est que j'aime quand même ça en certaines parties, mais je te dirais que ça dépend beaucoup, beaucoup du client avec qui je travaille. Puis ça, j'ai comme un petit peu plus la chance de le faire maintenant. Au début, je prenais comme tout ce qui se présentait. Maintenant, je choisis mes clients. Puis ma clientèle vient beaucoup du bouche à oreille. C'est que je me suis rendu compte qu'en faisant affaire avec les bonnes personnes, mais ça me recommande les bonnes personnes aussi. C'est que j'ai réussi à trouver des gens avec qui je peux mieux créer. Puis il y a des gens avec qui, tu sais, ils veulent totalement déléguer ça, puis qui me laissent pleine liberté, qui me donnent quelques restrictions. Puis moi, ce que je fais, c'est d'avant d'envoyer le produit final, je l'envoie au client pour voir s'il y a des modifications à faire avant. C'est que je laisse toujours quand même la possibilité au client d'adapter ça. Parce que, tu sais, je viens souvent vulgariser des domaines que je connais pas des fois. C'est que je dois vraiment m'immerser, aller chercher beaucoup d'informations. Puis ben, tu sais, des fois, est-ce que les informations que je viens dire ont du sens? Tu sais, est-ce que ça fit vraiment avec le domaine? C'est que là, je dois contrevalider avec les experts du domaine.
Mais t'as de la place beaucoup à la créativité, là, si je comprends bien. Là. Tu te sens pas vraiment restreint trop. Là. Ça te donne une direction artistique, mais tu peux exprimer ta créativité à travers tout ça.
Oui, mais ça dépend vraiment des contrats. J'ai des contrats où est-ce que j'ai beaucoup de liberté, puis d'autres que j'en ai moins. Puis c'est des fois trouver l'équilibre entre les contrats un petit peu plus payants, qui étonnamment, des fois, on dirait qu'ils ont moins de liberté, puis les plus payants, où est-ce que les plus libres, où est-ce que des fois, sont moins payants. Ouais. Mais j'aime beaucoup là, inclure le client dans la démarche artistique parce que je viens faire goûter l'art à quelqu'un qui, des fois, qui en a jamais. jamais faites ou qui n'en a pas fait depuis longtemps. Puis des fois, là, tu sais, j'ai des clients là, que je vois qui trippent à faire des vidéos. Puis comme ils aiment le processus, ben, des fois, ils souhaitent en refaire d'autres. C'est de voir qu'ils ont pu sortir un peu de leur personne puis leur idée. Puis je te tombe vers leurs suggestions. Je trouve ça le fun.
OK. Puis Samuel, moi, j'ai une question à deux. Bah, c'est la question pécuniaire de l'émission. d'abord, quand tu as commencé, ça prend quoi? Ça prend quoi pour faire le métier que tu fais actuellement au niveau logistique, au niveau pratico-pratique? Puis, est-ce qu'on gagne bien sa vie avec? Ça, c'est la deuxième partie.
Parfait. ça prend quoi? Je pense que, avant le pratico-pratique, je pense que ça prend de l'organisation. On en a discuté tantôt de mémoire, c'était en dehors des ondes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des très bonnes idées, mais qui sont pas capables de mettre la logistique derrière ça. C'est que moi, j'ai étudié en gestion hôtelière, gestion de restauration. Ces deux domaines d'administration, le volet hôtellerie, restauration, m'a comme donné un petit peu de plaisir à travers tout ça. Mais je pense que ça prend des connaissances de base au niveau, tu sais, des formes d'entreprise, peut-être de savoir, tu sais, d'avoir un bon mentor ou d'aller chercher des ressources. Maintenant, c'est le fun, sont vraiment disponibles ces ressources. Sources-là dans des centres entrepreneuriales ou des trucs comme ça, généralement les villes en ont. Sinon, après ça, côté pratico-pratique, moi j'ai commencé avec mon premier appareil en film. Mon premier appareil photo, je l'ai acheté avec ma sœur en garde partagée pour voir si j'aimais vraiment la photographie. C'est qu'on s'est partagé les coûts finalement. J'ai racheté ces coûts. Je me suis acheté mon deuxième appareil puis mon troisième qui était mon premier appareil professionnel. On parle des coûts d'un appareil comme ça d'à peu près 3 000 $, de des lentilles à 2 000 $ chaque. J'ai longtemps travaillé avec une seule lentille, ce qui est vraiment pas nécessairement l'idéal parce qu'on vient perdre différents points de vue. C'est comme si je vous disais un peintre qui travaille avec moins de couleurs. Il est limité, mais en même temps, ça va faire travailler sa créativité de travailler avec moins d'outils, ce qui peut être intéressant. Puis, tu sais, j'ai monté mon matériel à travers le temps, puis on n'en a jamais assez. Je veux dire, il y a toujours place à l'amélioration, puis c'est que je fais des investissements à peu près annuels. Donc, pour la question, si je me verse un bon salaire, ça dépend. Je trouve que je fais des bonnes ventes, mais je me verse pas un gros salaire parce que je viens investir beaucoup dans ma passion. Ouais. En même temps, les coûts d'entreprise que je viens mettre sont parfois reliés à des coûts que j'aurais mis moi-même si j'étais salarié. Je m'aurais sûrement acheté un appareil photo puis je m'aurais acheté ce stock-là pour triper. C'est que je vois aussi que je peux déclarer beaucoup de dépenses puis aller rechercher un petit peu d'argent à travers ça. Grosso modo, tu sais, l'année passée, je suis vraiment ouvert avec ça, là. Je me suis versé 45 à 50 000 $ l'année passée, là, ce qui est bien assez pour mon rythme de vie. J'ai dû faire des gros sacrifices les premières années parce que là, c'était vraiment pas payant. Par les sacrifices, ben c'est un gros mot, là, mais j'ai habité dans mon van. Je me suis acheté un sprinter puis que j'ai converti là, humblement en camper. Là, c'était assez rudimentaire, mais ça m'a permis de me donner beaucoup de liberté dans mes productions. J'avais ma maison avec moi, je pouvais traîner mon équipement, je pouvais aller faire beaucoup d'aventures, prendre des photos. Puis ben ça a commetté un peu le compromis là, pour être capable de vivre avec moins. Puis sinon, ben pour l'équipement, je travaille avec du Sony. J'ai changé au début, j'étais avec Canon. T'sais, l'équipement, ça va vite en production. Là, les coûts sont encore assez gros, là, plus gros que je l'aimerais. J'aimerais que ça soit plus accessible à plus de monde, mais des fois, il y a des petites entreprises qui m'appellent puis qu'ils aimeraient faire une vidéo, puis je dois un peu péter leur bulle parce que c'est vraiment pas encore aussi accessible qu'on le croit. C'est vraiment plus que ça l'était. Moi, je travaille généralement seul. Avant ça, c'était une équipe de production, c'est qu'il y avait beaucoup de coûts de main-d'œuvre. Les caméras de cinéma maintenant, là, en tout cas, il y a des premières lignes de caméras de cinéma, c'était à peu près 4 à 5 000 $. Les lentilles encore là, 3 à 4 000, ça dépend lesquelles. Puis sinon, ben, il y a beaucoup de coûts reliés avec ça. Les drones, les permis de drones, les assurances, c'est que la gestion de données aussi en cinéma qui est étonnamment, ça va vite, là, on remplit
vite beaucoup de stock, hein?
Ouais, on remplit vite des disques durs là, chez nous. J'ai une petite bibliothèque avec que je mets toutes mes disques durs l'un à côté de l'autre pour faire des backups avec ça, puis je les garde pendant plusieurs années pour mes clients. En même temps, je pense que je serais pas capable de m'en départir. Il y a un genre d'attachement avec ces données là, on dirait que c'est les souvenirs de ma vie beaucoup.
Tu serais comme un musée Samuel un peu.
Sérieux, il y aurait beaucoup de trucs poches là, mais tu sais. En voulant dire des trucs poches que, tu sais, c'est pas du matériel qui est filtré en tant que tel, là. Tu sais, le montage final est intéressant.
C'est cru.
Ouais, c'est ça. Je dis souvent qu'on vient comme ramasser comme des oranges ou des fruits pour faire un jeu au final, puis moi, je garde les plus beaux fruits pour faire le jeu le plus concentré, puis à la fin, mais c'est ça que je sers aux clients, tu sais. Mais beaucoup de matériel cru, effectivement, qui est pas traité.
OK. Fantastique. Ben, écoute, on va déjà passer à la dernière phase de l'émission.
Maintenant,
Les back vocals sont incroyables. Merci.
Merci, mais...
Merci.
Ah, merci. Merci. Ben, écoute, mais merci. Merci de partage. Merci d'être venu. Puis, ben, c'est ça. Si les gens, ils veulent te suivre ou te voir ou t'engager même, mm-hmm. où est-ce qu'on peut te trouver?
Ben, premièrement, merci à vous autres. Mais pour me retrouver, généralement, c'est sur mon site web qui est le plus efficace. Vous avez comme l'étendue de mon matériel. C'est pas toujours super à jour, là, mais samuelcyr.com. Sinon, je trouve que le plus beau stock à suivre est sur Instagram. C'est là où est-ce que je vais plus mettre des photos que je vais faire par passion. C'est que c'est un petit peu plus le reflet de qui je suis, vraiment des paysages, de la nature. Ça, c'est sam.cyr sur Instagram. Sinon, sur Facebook, Samuel Cyr Production. Vous devriez me trouver. Sinon, juste Samuel Cyr, vous allez me trouver assez vite. Puis ben, sinon, vous pouvez me contacter par téléphone pour soumission ou bien par email au samuelcyr.com à commercialoutlook.com.
Épique. Ben là, merci, c'est fantastique. C'est fantastique.
Merci pour cette belle opportunité-là. Merci d'offrir cette opportunité-là aux artistes en général. Puis je trouve que votre émission est une belle formule. Puis j'espère que vous êtes fiers de ce que vous faites.
Écoute, on s'amuse, hein. Pour vous, on s'éclate. En même temps aussi, c'est partagé. On reçoit quand même des gens super intéressants. Puis mm-hmm. bon, on découvre des domaines aussi. On est spectateur aussi de des gens qu'on invite. Et que, non, moi, c'est, je boude pas mon plaisir en tout cas.
Oh yes. C'est bon à entendre.
C'est magique. Non, pour de vrai, on aime ça. On apprend full des gens. Puis ça, c'est enrichissant autant pour nous que j'imagine que ça l'est pour les gens aussi à la maison. Donc, on est très content de faire ça.
Yes.
Fait que voilà, là je vais conclure avec une chanson parce que tu sais, je l'aime mon jingle. Thématique. J'adore ce jingle. Fait que oui, en fait c'est ça, je suis thématique et là la chanson c'est d'une mort à une grande renaissance et dans le fond je l'ai faite dans le contexte du Festival de théâtre 2022. Okay. Qui était l'année passée. Okay. Et c'est La Courte Pointe, ça s'appelle. J'ai publié, je pense qu'à la date, j'ai fait jouer mes deux autres chansons de La Courte Pointe. Mais en fait, j'étais un grand participant cette année-là de La Courte Pointe. Regardez, cette année, La Courte Pointe va être dévoilée la semaine prochaine. Fait que soyez à l'affût, on sait jamais, hein. Fait que voilà. Donc.
Excuse-moi, La Courte Pointe, c'est un festival, c'est quoi?
Je vais expliquer c'est quoi, mais c'est un module, non? C'est comme un aspect du festival de théâtre qui réunit trois artistes qui travaillent dans des domaines différents. Fait que t'as une personne qui fait un aspect visuel, un qui fait un aspect sonore, puis un qui fait un aspect poétique des poèmes. Puis là, après ça, tu les mets ensemble. Puis là, moi, la chanson que je vais mettre, D'une mort à une grande renaissance, j'avais reçu une image. Puis j'avais fait la musique à l'image de ça. Okay. Donc, je me disais que c'était thématique, nice. Tu vois. Fait que voilà. Puis en plus, la semaine prochaine, ben là, je dis jamais c'est qui qu'on reçoit, mais la semaine prochaine, je vais le dire, ben, on va recevoir le Festival de théâtre. Genre, oui. Littéralement, le Festival de théâtre là, qui va venir ici. Ça va être incroyable. Ben, je sais pas, il prend beaucoup de place, le Festival de théâtre. Fait que je sais pas si ça va rentrer.
On va voir.
Fait que c'est ça. Festival
de théâtre. Le Restaurant d'Or.
C'est ça. Festival au complet. Puis, ben c'est ça, il va y avoir un dévoilement en fin de semaine, 11. Soit elle a fui, je dis ça de même, là, je répète ça comme ça, là, tu sais. On sait jamais.
Nice.
Fait que voilà.
Super.
Donc, oui, d'une mort à une grande renaissance. Et j'espère que ben, vous allez mourir et revivre comme Sam. Peut-être pas assez proche, mais c'était comme une mort spirituelle à quelque part, tu sais.
Ouais, je vais. Peut-être pas tout à fait de comparer ça avec une expérience de mort imminente, mais du moins d'avoir vraiment passé proche. Pensez-y. Mettons, là, tu sais, tantôt on a dit qu'on n'est pas obligé de passer à côté de la mort, mais tu sais, des fois c'est dur d'aller explorer ces zones-là, mais si j'ai à mourir demain, ça va être quoi mes regrets? Puis comment je peux vivre ma vie en fonction de pas avoir de regrets? Ou tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de ce potentiel-là puis l'exploiter? On vous souhaite d'exploiter incroyable. Votre potentiel.
Incroyable. Puis même j'ai un jingle qui dit bonne semaine. Oh, attends, je vais le dire, là.
Bonne semaine.
Merci. Utilisez votre potentiel, puis créez des choses, même s'ils sont vraiment absurdes. Vous utilisez des bruits de chat, créez-les. Peu importe, vous allez voir, ça va vous amener à quelque part, puis c'est peut-être pas l'endroit que vous avez pensé, mais ça va être un bel endroit, ça je vous le garantis.
De l'idée à l'action.
Ouais, c'est beau monde à la fin. Merci les gars.
Voilà. Ouais. Donc, d'une mort à une grande renaissance, c'est parti, mon kiki. Bonne semaine tout le monde, je vous aime, puis prenez soin de vous.